France. Moi, son nez me fait penser à une patate. Il est petit, en fait. Hein. Une grosse cape rouge. C'est un rideau.
Je crois qu'il a une salopette ou un jean ou un truc comme ça, avec une chemise jaune.
Il n'a pas les habits de l'aristocratie, comme les princes, etc. Il est vraiment comme nous tous.
Il avait deux petits boutons, bah c'est des petits garçons, et une petite bille, petite fille.
Quand il dit la grande histoire de France, le T de histoire, il le remplace par un P. Du coup, ça fait espoir.
Il va faire paître son troupeau de boutons, avec les boutons là. Il joue aux tartes, donc en gros, il s'envoie des tartes à la figure, au lieu de jouer aux cartes.
Tous les mots, il les confond. Donc, par exemple, il dit... Il vit dans un chapeau et pas dans un château.
Pour se faire comprendre, c'est limite quand même. Ce serait drôle parfois de jouer un peu à ça.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. On dit souvent qu'il faudrait les noter. Vous savez, les perles des enfants, ces expressions surprenantes, ces mots déformés si mignons. On devrait les noter, oui, pour se souvenir de tout. Mais souvent, on garde en mémoire les meilleurs. Pour ma part, je n'oublierai jamais les pilotantes. Mon fils sort de l'école un jour en maternelle et m'annonce qu'il a mangé des pilotantes à la cantine. Des quoi ? Tu sais, les nuages, là, avec de la sauce. Des îles flottantes. Voilà un exemple de mot tordu involontaire. Mais on peut aussi en faire exprès, comme le prince de mot tordu. C'est même tout à fait indiqué. La belle l'espoir du prince de mot tordu, monument de la littérature jeunesse, nous invite à essorer le vocabulaire, à le tripatouiller, à le déguster comme un nuage de pilotante. Pour le plaisir de la sonorité, pour le plaisir de se moquer des mots à voix haute, pour le plaisir de transgresser les règles de la langue française aussi, et pour faire des blagues, tout simplement. Je le conseille aux petits glaçons, aux petites billes, et même aux adultes. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Et ce n'est pas sans émotion que j'accueille PEF dans ce studio. Bonjour PEF.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Ça n'est pas votre vrai nom. Je le dis d'emblée parce que les enfants posent tout le temps la question. Vous vous appelez Pierre-Élie Ferrier. PEF, ce sont vos initiales.
Attendez. Non, je m'appelle Pélican ému fragile.
Ah mince, j'étais mal renseignée. Ça démarre très très mal.
Patronyme.
Mais c'est joli parce qu'on dirait une onomatopée. PEF, oui. En pleine poire.
Ah, oui.
Vous êtes l'auteur de La belle l'espoir du prince de Motordu, le dessinateur. Également un livre publié en 1980, ça ne nous rajeunit pas. Les enfants d'aujourd'hui le dévorent toujours en se tordant de rire, vous aurez l'occasion de le constater dans cette émission. Vous savez ce qui est écrit en quatrième de couverture de ce livre dans l'édition la plus récente, PEF ?
Non.
Recommandé par le ministère de l'Éducation nationale pour le cycle 2 de l'école primaire.
Non, ils ont fait ça ?
Ouais. Ça fait quel effet ?
Les traîtres et les traîtresses d'école et les groseillers pédagogiques,
ils ont osé. Des écoles portent votre nom aussi en France, je crois. Et il y a même une rue du Prince de Motordu à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Et ça, oui. C'est la consécration.
Ah oui, ça c'est sûr.
Vous êtes allé dans les écoles PEF?
Ah bah oui, parce que forcément, on m'invite à l'inauguration.
Mm-hmm.
Et c'est terrible parce que cette plaque de marbre qu'on vous présente, ça ressemble à une pierre tombale. c'est ça. Mais c'est très, très émouvant.
On parle aujourd'hui donc de mots tordus, mais vous avez écrit aussi plein d'autres livres, également pour les grandes personnes d'ailleurs. Mmh. Petit éloge de la lecture, c'est un régal à lire chez Folio, et récemment un livre personnel, un récit de voyage à vélo et à moto sur la Nationale 6, ça s'appelle Aller double chez Gallimard. Le prince de mots tordus, dans La belle l'espoir, rencontre une princesse des écoles qui l'invite dans sa classe pour remettre le langage à l'endroit. Ce sera votre mission, si vous l'acceptez. Laëlia Véron, bonjour.
Bonjour, bienvenue. À la fin de l'histoire, elle-même se met à parler en mot tordu. C'est peut-être ça aussi la mission.
Et voilà, elle a tout dit, vous gâcher. Remettre le langage à l'endroit, ou en tout cas nous parler du langage, puisque vous êtes linguiste, Laëlia Véron. Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique. C'est le titre du livre que vous avez coécrit avec Maria Candéa, édition La Découverte. Vous proposez aussi un podcast chez Binge Audio, Parler comme jamais. C'est le titre, en partenariat avec Robert, le dictionnaire. Oui. Quel souvenir d'enfance associez-vous au prince du mot tordu, Laëlia Véron?
Moi, j'ai vraiment grandi avec, j'ai l'impression. Et je me souvenais beaucoup de cette image avec son chapeau château sur la tête, ce château rose. Et je pense que j'ai eu le plaisir, qu'ont toujours les enfants, de jouer avec la langue et d'avoir un peu le droit et l'espace de tordre les mots. Et forcément, ça a été un grand plaisir et ça a été très très marquant.
D'où est venue, Pef, cette idée du prince de mots tordus? Comment est-il né?
Vous savez, je suis fils d'enseignant. À l'époque, les enseignants habitaient à l'école. Ils avaient un logement de fonction. Tous les matins, c'était moi qui allais ouvrir la porte de l'école. J'avais ma petite blouse grise, mes manchettes noires, mes deux genoux roses et puis mes grandes chaussettes. C'était une classe unique, hein, c'était vers la forêt de Rambouillet, un tout petit village. Et ils étaient à la porte et ils étaient rue de la Liberté, quoi. Donc ça s'appelait pas rue de la Liberté, mais ils étaient derrière les grilles, hein. Et l'école, c'était la prison. Ils étaient pressés. Et tous les matins, ils me disaient, j'avais 8 ans, moi, ils me disaient, alors, c'est ouvert! Et moi, je répondais, voilà, voilà, j'arrive. Et un jour, au bout de 15 ou 30 fois, j'en ai eu assez quand ils m'ont dit encore « Alors, c'est ouvert ?» J'ai dit « Non, c'est tout bleu !» Et ils ont fait « Ha, ha, ha !» Et moi, j'ai fait « Waouh !» J'ai fait rire des plus grands comme moi. J'étais devenu le roi du monde.
Ainsi voilà, est né le prince de mots tordus. Pourtant, vous avez publié votre premier livre assez tard, je crois, Pef, à 38 ans.
Ben oui, oui, oui.
Il a fallu un petit moment pour que ça mûrisse quand même.
Ben, il fallait que je vive quand même. Hein. Et puis, il faut dire qu'en 47-48, où en était la littérature de jeunesse? Moi, il y avait des livres que j'adorais, comme Mishka, par exemple, Marlaguette, l'histoire de Perlette, la petite goutte d'eau, les albums du Père Castor, Cigalou, hein, Mishka dans la neige, avec ses petits pas bleus. Ça a été très formateur pour moi. Mais autant je les aimais, autant j'aimais pas Babar, parce que un éléphant à veste verte, c'était pas crédible.
Je ne vous laisserai pas vous en prendre à Babar.
Oui, oui, bah, d'accord.
Est-ce qu'il a fallu avoir des enfants pour avoir l'idée ou peut-être l'audace de publier pour eux?
Je l'ai fait pour ma grand-mère. Vraiment. Moi, ma grand-mère, le premier livre. Hein, moi, ma grand-mère est cosmonaute. Moi, ma grand-mère est pilote de course. Moi, ma grand-mère sait parler latin. Moi, ma grand-mère, etc., etc. Je voulais faire un cadeau d'anniversaire à ma grand-mère. Vraiment, vraiment. Parce que c'est elle qui m'a mis au monde. Elle m'a mis au monde in vivo. Elle a accouché sa fille, ce qui est strictement interdit maintenant. Et en plus, in libro, puisque mon premier livre s'appelait « Moi, ma grand-mère ». Voilà. Alors, j'y ai offert, elle avait un accent bourguignon, je lui ai offert le livre et elle l'a feuilleté, c'était « Moi, ma grand-mère ». Et à la fin, elle a fermé le livre. Elle m'a dit « Mon pauvre Pierrot, quand est-ce que tu seras sérieux ?» J'avais 38 ans et j'ai su qu'elle m'avait donné le starter.
C'est elle en couverture de votre nouveau livre, Allée Double.
C'est la Marguerite, c'est Marguerite.
Très belle photo de votre grand-mère en noir et blanc.
Ah oui, en noir et blanc.
Nous allons donner la parole à des enfants tout au long de cette émission. Notre reporter Caroline Pommès a promené son micro à Chamonix et à Paris. Voici quelques-uns de vos fans, Pef, et surtout des fans du prince de mots tordus.
Prince comme tout le monde, sa spécialité c'est de dire les mots de travers.
En gros, tous les mots, eh ben, il les confond. Donc, par exemple, il dit il vit dans un chapeau et pas dans un château. Il a un troupeau de boutons et il dit des expressions très tordues parce que c'est des mots qu'il confond.
Les belles espoirs du prince de mots tordus, c'est le tout premier, ou les belles espoirs de France. Et aussi, il y a un truc très drôle. C'est le dictionnaire de mots tordus. Il y a plein de définitions de mots de tordus. C'est très marrant, comme par exemple, il y a patin à poulette. C'est un des œufs en plein air que les enfants pratiquent la journée. Et quand ils s'étonnent, rendez-vous pour faire du patin à poulette. Et ils se disent chacun, à demain patin. Au lieu des patins à roulette, c'est les patins à poulette.
Bah, je le trouve assez drôle parce que des fois, les gens qui le parlent et qui le croisent, ben, en fait, mots tordus, il parle toujours à sa façon. Donc, en gros, les gens, ils se disent « Mais attends, mais vous vous fichez de moi, en fait. Hein ?» Donc, en fait, il se fait jamais comprendre. Donc, il est parti loin dans son château.
C'est un truc qui est tout inversé et tout ça, quoi. Genre, c'est comme un monde parallèle, un truc comme ça, genre. Ouais, parce que normalement, les princes, ils sont pas tellement roux. Ils ont plutôt les cheveux soyeux, blonds.
Un chapeau, ah oui, dans son grand chapeau, pour hisser de beaux crapauds. Des crapauds volants. Des crapauds bleu, blanc, rouge. Il arrive avec sa toiture. Il prend vraiment une toiture, genre. Et dans sa salle à danger, avec ses cousins, Donc en fait, c'est cousin. Donc en gros, il y a les cousins qui... Non, en fait, c'est véritable cousin. C'est ses véritables cousins, mais il dit coussin.
Ou alors, pour ranger sa chambre, c'est manger sa chambre. En fait, c'est un prince qui vit le monde mélangé. Par exemple, il mange des petits bois, il en mange tellement qu'il attrape de vilains moutons qui les démangent toute la nuit.
Non, elle est pas fou, en fait. Il sait très bien parler français. Il sait très bien parler, machin. C'est juste que cette langue-là, il la comprend pas. Donc, il mélange. Il se dit, bon, je vais faire au pif, machin, je vais pas me poser la question. Donc bah, finalement, il a intégré cette langue à lui-même. Bah, ça s'appelle la langue mot tordu.
Excellente analyse collective. Ce sont les enfants qui font tout le boulot dans cette émission. C'est très commode. Là, Elia Véron, alors je sais, c'est toujours un peu dangereux de se demander pourquoi l'humour est drôle. Mais je vais quand même me lancer dans cette question. Pourquoi c'est drôle, à votre avis, le prince de mot tordu?
Parce que je pense que ça renoue avec l'aspect ludique du langage, tout simplement. On a l'habitude d'aborder le langage, et ça fait partie de ses fonctions d'un point de vue informatif, normatif, avoir la bonne orthographe, la bonne prononciation. Et dans le monde de l'enfance, c'est peut-être le moment où on permet, justement, plus que dans d'autres domaines, de jouer avec la langue, de retrouver cet aspect du plaisir de la langue. Et en réalité, on parle tous des fois en mot tordu, que ce soit des fois quand on se trompe en faisant, on se trompe de phonème et ça fait un petit mot drôle. Nous
qu'est-ce
aussi,
qu'un
on
phonème
fait d'enfant. Pardon, qu'est-ce qu'un phonème? Par exemple, de dire des billes au lieu de filles. Voilà, il suffit de changer un son, un phonème, donc c'est la plus petite unité de son, et ça change le mot. Et c'est pas juste une erreur, ça devient une création. Et dans le livre de Pef, en plus, la création est matérialisée par l'image. Et donc on a tout ça en même temps. Au lieu d'avoir juste un mot, au fait, on en a deux parce qu'on reconstitue celui qui n'est pas dit et on voit même celui qui est dit. C'est magique. Le langage se démultiplie. C'est une richesse.
Ce sont des enfants de 2021 qu'on vient d'entendre, Pef. Donc si par hasard on avait un doute, ce bouquin qui est sorti en 1980, l'humour qu'il porte en lui est indémodable.
Les mots, il faut les envoyer en récréation. Comme les gosses, ils ont besoin de récréation. Que de temps en temps, une toiture devienne une voiture ou réciproquement, c'est très sain pour eux.
On a dû vous demander parfois si c'était pas un peu dangereux comme démarche.
Oui, au début, j'ai été dans des congrès d'orthophonie et on me disait, n'avez-vous pas peur? Et ils ont mis des jurons dans le genre phonème.
Ça balance. Hein.
C'était un mot que j'avais jamais entendu. Donc,
il y a des phonèmes en alexandrin.
Au début, même mon éditeur, Pierre Marchand, il a attendu quand même un an et demi.
Est-ce qu'il n'était pas sûr que ça passe.
Il me disait, les enfants font tellement de fautes d'orthographe. Et au contraire, c'est ce qui s'est passé de remarquable, j'y suis pour rien, mais c'est que les gamins ont plutôt fait attention au fait qu'en changeant une lettre, ben, on met une étincelle dans un baril de poudre, quoi. Et tout d'un coup, le monde en est changé. Et ils font plutôt plus attention quand ils regardent aux lettres à lettres comment le mot est construit, par où ils pourraient le dévisser. Mais ça mène très bien à la pratique et au respect de l'orthographe.
Et voilà la raison pour laquelle il est écrit sur la jaquette de ce livre qu'il est conseillé à l'école, là, Elia Véron. C'est un outil d'apprentissage, le prince de mot tordu.
En fait, ça peut l'être si je rebondis sur l'histoire de le dévisser. Vous savez, il y a quelque chose, une erreur pour le coup, que tous les enfants font en apprenant le langage. C'est des étapes naturelles d'acquisition du langage. C'est savoir où le mot commence et le mot finit. Parce que quand on n'a pas l'écrit, on ne sait pas. Et typiquement, vous savez, un enfant, il va entendre un âne. Au pluriel, il va dire les nanes. Parce qu'il ne va pas faire la différence entre, on va dire, le déterminant et le nom. Où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il finit? L'histoire, la lispoire, voilà. Où est-ce qu'est le début, la fin du mot? Et bien justement, ce livre, il nous permet de réfléchir au lien qui est pas si facile entre le son et le sens, entre comment c'est écrit, comment c'est prononcé et comment c'est découpé, et comment en redécoupant les mots, eh bien, on va les comprendre différemment. Donc ça, c'est des grandes étapes d'acquisition du langage. Quand un enfant passe de l'oral à l'écrit, eh bien, les mots commencent pas du tout et ne finissent pas du tout comme il pensait. Et ça matérialise ça et ça explique ça, en réalité, de manière ludique. Donc ça accompagne une étape naturelle d'acquisition du langage.
Je connais un enfant qui, quand on lui disait « t'exagères vraiment », répondait « non, je suis pas exagéré ».
Voilà.
Ça se dévisse. Ça se dévisse, le verbe exagérer.
C'est Rabelais là-dedans, c'est Bobby Lapointe, c'est tout ça.
C'est aussi très pratique pour réviser les maths, le prince de mot tordu. 4 et 4, 8. 4 et 5, bœuf. 5 et 6,
bronze.
5 et 6, bronze. 6 et 6, bouse.
Oui, voilà.
Évidemment. Le groupe s'appelle Michel, c'était F-Y-O sur France Inter, le choix de Jean-Baptiste Audibert. Cette émission est préparée par Anne-Sophie Dazard, réalisée par Christophe Imbert, avec Anne-Laure Cochet à la technique.
Dorothée Barba,
et nous rendons hommage au prince de Motordu ce dimanche avec son auteur et dessinateur Pef et avec Laëlia Véron qui est linguiste, spécialiste de la langue française. J'ai une citation à vous soumettre, Pef. Même pas peur ?
Même pas peur.
Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Que répondez-vous à ce cher Albert Camus ? Est-ce qu'on nomme mal les choses dans vos livres et notamment dans les histoires de la famille Motordu ? Est-ce qu'il s'agit de mal nommer ?
Non, c'est une liberté. Mal nommé, mal nommé, malheureux, malvoyant, arrêtons là, quoi.
Stop. Laëlia Véron, ça se confronte, cette citation, à cette histoire-là ?
Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit mal nommé. Je pense que c'est renommé, dédoublé. Mmh. Encore une fois, les mots ne sont pas annulés. Le plaisir, c'est aussi de reconnaître. L'autre mot derrière le mot tordu, l'espoir, on reconnaît histoire. Mmh. Des écoles, on reconnaît comment les deux mots séparés, des et écoles, les glaçons, les garçons. Donc, c'est pas mal nommé, c'est multiplinommé, on pourrait dire, en quelque sorte.
C'est chouette, ça.
Multiplinommé, ça c'est...
Ça vous prenez.
Bravo, ça, je veux ça en lettres d'or sur ma porte.
On le met dans le dictionnaire de Barbatruc illico. Ouais. Savez-vous planter les mots ? Non, pardon. Vous plantez-vous parfois avec les mots ? Question posée à des enfants par Caroline Pommès.
Je suis pas vraiment le genre de personne qui se plante tout le temps, mais ouais, je me plante quelquefois. Mais je me trompe souvent, ouais, dans les mots.
Quelquefois, ça plante, ouais. Ça arrive comme ça, je parle trop vite et d'un coup je loupe un mot.
Bah ça me fait rigoler et en même temps, bah si je me trompe, ça veut dire que je suis exprès.
Et du coup, bah c'est pas grave si on fait des fautes, parce que tout le monde en fait.
Bah Agathe, elle parle super vite, donc c'est drôle des fois parce que je me dis, je la comprends pas du tout. Donc je fais, ah, qu'est-ce que t'as dit ? Et après elle m'explique et on rigole ensemble, donc c'est plutôt drôle.
Moi maintenant, ça m'arrive très rarement, mais quand j'étais petite, au lieu de dire chocolat blanc, je disais Lolaban. Parfois on s'en rend pas compte quand on se trompe, mais tout le monde se trompe, même les adultes et les maîtresses aussi.
Non, mais à mes repas de famille, mon tonton il se plante très souvent. Des fois, quand il dit week-end, il dit weekend. Tout le monde se met à rigoler et du coup, lui, il arrête de parler, il est en mode. Il déprime.
Quand on parle, c'est. Pourquoi, par exemple, il y a toujours un S à tapis pour un S à souris ? Un chasseur chasse en chassant sans son chien est un bon chasseur.
Toi, tu disais tout le temps pestac. Crocodile. Moi, j'avais du mal avec crocodile. Que c'était... J'ai appris récemment que ça se disait crocodile. Donc, j'étais là, quoi ? Attendez, je l'ai appris à 14 ans. Donc, j'avais fait la faute super longtemps. Donc, j'étais un peu déçue.
Comme, comment ça s'appelle ? Spectacle. Quand on est petit, normalement, on dit pestacle, je crois. En tout cas, moi, je le disais tout le temps. C'est ma mère qui me le rappelle tout le temps. Elle rigolait.
Se moquait de toi.
Ouais. C'est pas grave, mec.
J'ai dit louche.
Vraiment, le mot louche, je l'ai dit ouais, peut-être quelques fois dans ma vie, mais sinon, après, je dis tout le temps chelou, quoi.
Ouais, je dis pas merci. Même dans mes messages, j'écris si mère. J'écris pas merci.
C'est comme apéritif. Avant, on disait apéritif. Du coup, ouais.
Les mots qu'on utilise presque tout le temps, des fois, on sait pas comment les écrire. Et donc, à chaque fois, je fais des fautes comme apéritif ou surémi, je disais, au lieu de surimi. Alors, quand on me l'a dit, j'étais quoi ?
Comme monsieur. Monsieur, alors que ça s'écrit monsieur. Ouais. C'est très bizarre.
Il n'y a pas à avoir honte de se tromper de mots.
On a le droit de s'exprimer comme on veut tant que les gens nous comprennent.
Voilà. À quoi il sert ? Je rebondis sur l'une de ces phrases qu'on vient d'entendre. À quoi il sert le S de tapis ? Aidez-nous. Aidez-moi, s'il vous plaît, Laëlia Véron, à répondre à cette question. Les enfants ont souvent l'impression que l'orthographe leur veut du mal.
Oui, bah, en fait, je pense que l'orthographe est déstabilisante parce que l'orthographe française est honnêtement compliquée et des fois, on peut l'expliquer. Des fois, il y a des raisons étymologiques ou d'autres raisons grammaticales. Et des fois, non, hein. Des fois, c'est arbitraire et des fois, on peut pas l'expliquer. Un exemple que je donne souvent, c'est honoré et honneur. Honneur, il y a deux N. Honoré, il y a un N. Ça se prononce pareil. Ça vient du même mot. Allô? Pourquoi vous nous faites ça? Mais c'est un peu triste, là, dans leur histoire, l'histoire du tonton qui, quand il se trompe sur le mot, tout le monde se moque de lui et il arrête de parler.
C'est pas faux, ouais.
Déprime,
non, mais il déprime. Après, peut-être que l'enfant rajoute un peu. PF.
Non, mais c'est aussi la différence de réaction entre les fautes d'enfants et d'adultes. Souvent, les enfants, malgré
c'est
tout,
charmant. Avec
on
les
trouve
enfants,
ça charmant.
C'est charmant.
On les corrige, mais on trouve ça aussi charmant. Alors que les adultes, ça passe moins quand même. Alors que comme les enfants le disent bien, tout le monde fait des fautes. Pas forcément avec la même fréquence, pas les mêmes, mais tout le monde en fait.
Mais d'ailleurs, que pensez-vous du mot faute pour parler d'une erreur de français, d'une erreur d'orthographe ou de grammaire, là, Laëlia Véron ?
Ça a souvent été quelque chose qui a été étudié, effectivement, en linguistique. Pourquoi on dit ce mot qui renvoie à l'idée de moralité ?
C'est très moral. moral, hein, de faute divine. Faute, oui.
La grande faute, hein, au départ, ça renvoie effectivement à la faute d'Adam et Ève, à la faute divine. Et certains disent qu'il faudrait effectivement dire le terme erreur, qui serait moins moralisateur. Mais je pense qu'en dehors du mot, il y a surtout l'attitude par rapport à la faute et l'attitude qu'on a dans la correction. Est-ce que c'est corriger pour aider la compréhension, corriger parce qu'on dit non, tu dois absolument pas dire ça, corriger pour expliquer dans quel contexte il vaut mieux dire ça ou ça. Il y a plein d'attitudes différentes par rapport à la faute. C'est vrai, comme le disaient les enfants, que si tout le monde fait une faute, elle va cesser d'être une faute et ça va devenir une règle. Et on a plein de règles de français comme ça.
Et ça, ça vous met en joie quand les erreurs intègrent la langue?
Bah, je sais pas, c'est pas forcément parce que c'est une erreur, mais juste parce que ça montre le mouvement de la langue qui va toujours rebondir sur ce qui est dit, va toujours l'intégrer d'une autre manière. Et c'est aussi, oui, la surprise de voir quelle forme va s'imposer plutôt qu'une autre. Nous, on est tout contents de voir des mots apparaître, voir quels mots s'imposent.
Puis les mots sont des cabris, hein, et il faut leur donner du lait, c'est des cabriolets. Hein, donc.
Vous savez que le jeu de mots, c'est un concept un peu flou, hein, souvent pour les enfants. Les tout-petits ne comprennent pas du tout, et les plus grands en font une définition parfois un peu large.
Ce que j'ai aimé, c'est surtout les jeux de mots et les trucs un peu tordus, voilà, les mots tordus. Donc c'est ça qui me faisait beaucoup rire. Et une fois, en fait, avec mes sœurs, on s'amusait un peu à mots tordus. Et on essayait d'inventer un peu, par exemple, on va jouer à la tapette. À la crapette, en fait.
J'aime bien, des fois, changer un peu le mot et savoir si les gens, ils tiltent et qu'ils comprennent quand même le mot. C'est amusant. Mais après, des moments, quand c'est un mot un peu bizarre, c'est gênant quand même.
Non, il y a une fois avec une de mes amies, bah, on a fait un jeu, c'est celle qui parle le plus vite. Et du coup, bah, c'est assez compliqué, parce que du coup, on comprend rien. Alors, je vous raconte une bonne blague. Que demande un douanier à un cochon qui veut passer la frontière? Son passeport. Elle est bonne, hein?
Jouer avec les mots, bah, je sais pas, on change les mots un peu, on parle en verlan, c'est surtout ça, en fait.
À l'école, parfois, on fait du théâtre et on fait ce jeu. Et tu dois faire différents mots, mais différents mouvements en même temps. Il faut que tu fasses vite, en fait. Et parfois, je me mélange les deux mots ensemble. Et...
Ouais, j'ai dit comme manger et danger. Une fois, j'ai fait les gars, je vais danger, je sais pas.
The boom. Genre, ça mélange avec zip et boing. Ziboum. Et en fait, Shane, quand elle faisait du piano, elle faisait blam, 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 blam sur le pagno, sur le piano. Pagno, pagno.
De l'eau, j'ai dit de bleu, du bleu, au lieu de l'eau.
Je joue beaucoup avec mes amis au collège. Quand, par exemple, soit qu'on a des contrôles, on s'amuse à mélanger les mots du contrôle en classe, du coup, c'est assez drôle pour s'amuser en attendant.
Franchement, ouais, nous, c'est un peu pareil. On fait des pièces de théâtre, mais on fait avec du vieux français. Donc, des fois, c'est assez dur de prononcer les mots. Donc, on se trompe, on en met d'autres.
Du coup, parfois, il y a des jours où tu n'arrêtes pas de mélanger les mots et tu n'arrives pas à dire proprement les mots. Voilà.
Et c'est le skatepark de Chamonix qu'on entend en fond sonore derrière ses enfants au micro de Caroline Pomès. Alors, le jeu de mots, effectivement, est au cœur de la belle l'espoir du prince de mots tordus, PEF. Mais ce sont aussi des jeux d'images. Ce qui est très drôle quand vous parlez du crapaud bleu, blanc, rouge qui flotte au-dessus du chapeau, c'est que vous le dessinez, le crapaud.
Mais oui, mais je crois que j'aurais pas écrit du tout le même type d'ouvrage si j'avais pas été dessinateur. Pour moi, ce qui était fabuleux, c'est que ce prince habite un chapeau, eh bien la porte, elle était grande ouverte. C'est un grand courant d'air qui appelle le dessin.
Et quand ce gamin vous parle du passeport,
le passeport,
là vous l'imaginez en dessin immédiatement?
Absolument, c'est un régal.
J'ouvre le livre au hasard et je tombe sur le prince de mots tordus qui fait du râteau à voile. Évidemment, le gag fonctionne parce que le râteau est en train de fendre les flots.
Ratisser l'océan.
Là, Elia Véron, comment on définit un jeu de mots? Ça existe, ça, une définition en linguistique?
Moi, j'ai fait ma thèse sur le trait d'esprit et on commence toujours par dire qu'on n'arrive pas à définir et puis on essaie de définir en 60 pages. Non, mais au fait, ce qu'on peut repérer, c'est certains phénomènes formels et les nommer. Par exemple, ce qu'il y a beaucoup dans Le Prince de mots tordus, c'est ce qu'on appelle des paronymes, c'est-à-dire des mots qui sont presque pareils d'un point de vue du son sans être exactement pareils. Ben voilà, râteau. Pour bateau, par exemple.
Vous c'est le saviez, Pef, que vous faisiez des paronymes?
Je pense que vous avez dit
Monsieur, je vous interdis de m'insulter. Mais un peu de tenue, s'il vous plaît.
Donc un paronyme, on l'explique aux enfants, c'est quand deux mots se ressemblent et qu'on en emploie un pour l'autre. Mais quand non, on le fait exprès, sinon c'est pas un paronyme.
Oui, alors c'est pas forcément l'emploi, c'est juste pour dire deux mots qui ont des sonorités proches, sans être tout à fait semblables. Râteau, bateau.
Comme disait Prévert, de deux choses l'une, l'autre c'est le soleil.
Oh. J'adore ça.
Oh, ils sont bons, on est bien au cœur.
Ils ont bien travaillé. On a compris, on a des bonbons.
De deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. Il y a un autre grand auteur pour la jeunesse qui s'amuse beaucoup avec les mots comme vous, Pef, c'est Claude Ponty. Personnellement, moi j'emploie très souvent le verbe éclapatouiller quand je fais de la cuisine, au point d'oublier qu'il n'existe pas vraiment, ce mot, inventé par Ponty. Donc, qu'est-ce qui vous relie, lui et vous ?
Je crois que c'est l'humour, et l'humour, il a mille visages. Mmh. Il y a un visage pour Ponty, un visage pour Sempé, il y a un visage pour Quentin Blake, Tommy Ingerer, bon, voilà. Et l'humour, il est protéiforme. Il n'y a pas de définition de l'humour, il n'y a pas d'école d'humour, il n'y a pas d'école d'écrivain non plus, hein. Donc, on est tous collègues, voilà.
Est-ce que quand vous lisez un livre de Claude Ponty, Pef, est-ce que vous vous dites parfois « Ah, j'aurais bien aimé l'inventer, ce mot-là »
Mais oui, mais je ne peux pas le tuer, non.
Juste pour rebondir sur le mot, c'est quel mot vous pouvez...
Éclapatouiller.
Vous disiez qu'il n'existait pas, il existe puisque vous l'employez, et puisqu'il l'emploie, il y a sans doute plein d'autres personnes qui l'emploient.
Et ben voilà, Dorothée, hein.
Non mais c'est vrai, les mots existent heureusement avant d'être dans le dictionnaire, et le dictionnaire enregistre ceux qui sont dans l'usage. Mais moi, on me demande souvent comment vous pouvez inventer un mot. Ce mot n'existe pas, il a été inventé, mais vous croyez que les mots poussent dans le dictionnaire ou dans les arbres? C'est toujours des gens qui les inventent. Hein.
Ouais, ouais.
Ça pousse dans les arbres à mots, bien sûr.
Voilà, c'est ça. Et si vous le cueillez, si vous l'employez beaucoup, s'il est dans l'usage, un jour il entrera dans le dictionnaire, mais il existe avant d'être dans le dictionnaire.
On entendait tout à l'heure un enfant dire qu'il n'écrivait jamais merci, mais toujours si mère dans ses messages. Ça a dû faire lever des yeux au ciel chez les auditeurs et auditrices. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, là, Elia Véron?
Qu'on a toujours joué avec ce qu'on appelle soit le verlan, soit les troncations de mots. Le fait de raccourcir le mot, et des fois on l'oublie quand c'est entré dans l'usage. Par exemple, cinéma, personne ne trouve ça vulgaire. Au départ, c'est bien une abréviation, hein.
Ah oui.
D'accord.
De cinématographe.
Tout à fait. Et par exemple, ben, métro, c'est aussi une abréviation. Est-ce que ça vous fait lever les yeux au ciel maintenant?
Très vulgaire, moi, de dire voilà. Métro.
Oh. Chaque fois que j'entends métro, là. Oh.
Allez, on poursuit cette immersion dans le chapeau du prince de Motordu dans un instant. Voici d'abord Delgrès sur France Inter.
Dorothée Barbe.
Vous écoutez Barbatruc sur France Inter avec Pef et Laëlia Véron. Cette semaine, nous parlons de la belle l'espoir du prince de Mot-Tordu, un monument de la littérature jeunesse. C'est impressionnant ce mot, hein, monument, Pef.
Je lui dois beaucoup. Hein. S'il y a une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est à cause de lui.
Mais... Grâce.
Je rends grâce. Mais il m'a donné les moyens de faire autre chose que Mot-Tordu.
Et notamment ce livre chez Gallimard, très récent, Allée ouais. Double. C'est un voyage à moto et à vélo. Ouais. Vous avez mélangé les deux roues dans ce bouquin, PF.
Ben oui, 16 ans en vélo et 46 ans plus tard en moto. Le même chemin, la même nationale.
De quel voyage s'agit-il ?
Il s'agit de prendre la porte d'Italie, la nationale 6, et de la quitter à Chalon-sur-Saône, l'endroit où je suis né. Et quand j'avais 16 ans, je suis allé voir ma grand-mère et 46 ans plus tard, je suis allé voir sa tombe, parce qu'elle n'était plus là, hélas. Mais c'est cette confrontation des deux allées, simplement double, parce que le retour, c'est pas la peine d'en parler, mais aller doublement vers sa grand-mère à 16 ans et ensuite à 46 ans, pour moi, je lui devais bien ça, à Marguerite.
Alors, qu'est-ce qui a changé avec les années entre ces deux allées simples ?
Moi, j'ai pas changé. Je suis toujours l'adolescent qui n'en finit pas de compter les platanes entre Sens et Auxerre. Et voilà, je suis toujours ce gamin-là, quoi. Quelque part, il ne veut pas mourir, quoi.
Votre capacité à vous émerveiller plus que le commun des mortels, PF, est-ce que ça vient de votre grand-mère ?
Je pense pas. Ma grand-mère était bien trop affairée pour... Elle était sage-femme, hein. Elle avait des horaires très très compliqués. Elle était extrêmement sévère. Non, je crois que elle était plus acérée quand, à la lecture de mes bulletins trimestriels. Là, elle avait une façon de me regarder, parce que je l'aimais énormément, ma grand-mère. Mais quand elle me regardait comme ça, je savais vraiment que j'avais vraiment failli. Et qu'elle pouvait pas m'aimer. M'aimer ne pouvait plus m'aimer si je faisais pas un petit effort.
Vous parlez de vos bulletins scolaires, alors évidemment, c'est une question qu'on doit vous poser souvent, mais est-ce que vous faisiez des erreurs, vous, d'orthographe, de grammaire, de langue française quand vous étiez petit ?
Non.
Parce que c'est ça qui réjouit les enfants qui lisent Mot-Tordu aujourd'hui. Ils se disent, il est comme moi ce gars-là, il fait des fautes.
Non, j'ai appris à lire tout seul, comme beaucoup d'enfants d'enseignants. Vous voyez, Marcel Pagnol, son père était instituteur, et comme il était trop petit, on le mettait à la fin de la classe. Et il restait là des heures, il n'y avait pas de maternelle à l'école. Et moi, c'est pareil, quand j'ai vu ma mère écrire et que je n'avais pas le droit d'être là, je n'avais pas à être là, j'étais pas dans le cours préparatoire. Mais ma mère, un jour, a eu la même réaction que le père de Pagnol. Il se retourne, l'acteur qui écrit au tableau, et il dit à son fils, tu sais lire, toi ? Et oui, il avait appris comme ça. J'ai appris, et beaucoup d'enfants d'instit ont appris comme ça.
Donc vous étiez plutôt un premier de la classe ?
Ça a vite cessé. J'ai complètement dérivé à partir de la cinquième, j'étais ailleurs.
En tout cas, je retiens que PEF et Pagnol, c'est le même combat, donc la gloire de mon PEF.
Oh, quel est bien.
Voici encore des paroles d'enfants. Ils vont se pencher à présent sur les règles. À quoi servent les règles d'orthographe et de grammaire ? Et pourquoi parfois on aime les piétiner allègrement ? Si vous aimez les tics de langage, genre, du coup, tendez l'oreille, parce que du coup, il y en a quelques-uns, du coup.
Bah, c'est important. Par exemple, si on donne une mauvaise orthographe, et bah, ça peut faire un autre mot, donc on peut pas comprendre le sens de la phrase.
Enfin, mon père, souvent, quand je fais des fautes, il me dit à l'oral, surtout, il me dit non, ça se dit comme ça, mais après, j'essaye, mais des fois, c'est dur. Hein. Moi, je fais pas attention à chaque fois que je parle.
Moi, j'en ai deux, c'est par exemple le fils A, et c'est pas le fils A, c'est le fils 2, du coup, on reprend tout le temps là-dessus. Et aussi, c'est quand tu dis si. Si t'aurais, c'est... Du coup, bon, tout le temps, si t'aurais, c'est si t'avais...
Ah bah oui, voilà, c'est ça, moi. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Non, mais genre, ça pleut et il pleut, moi, je dis tout le temps ça, par exemple.
Ah ouais, ça pleut.
Bah, il faut bien parler, ça dépend. Quand on est avec nos potes, bah, t'es pas obligé, mais si tu parles au président, bah, c'est normal que c'est normal que tu parles bien, après, voilà.
Quand on suit les règles tout le temps, c'est sûr qu'on s'ennuie. Je sais les mots, mais quand je suis avec mes copains, bah, je les transforme un peu pour... Ce sont plus cool, quoi.
Bah, quand on parle avec nos potes, moi, je m'applique pas. Des fois, Enfin voilà, je fais des trucs comme ça, alors qu'en français, quand je parle à ma prof, bah c'est sûr que normalement, je dois bien parler. Ouais, voilà.
J'ai déjà parlé en verlan à la prof. Voilà, elle a pas été contente, surtout que ma prof de français n'est pas forcément très très sympathique. Mais là, on nous apprend pas comment on écrit chelou, on nous apprend comment on écrit louche. Bah après, on apprend quand même les bons mots, mais ce serait marrant si on pouvait se lâcher un peu.
Il y a des règles, c'est partout comme ça, donc voilà. Il faut accepter.
Moi, je suis pas encore au collège. Du coup, je suis en CM2. Mais du coup, ma maîtresse, elle est très stricte. Voilà, du coup, elle aime pas trop. Enfin, quand on les dit pas correct. Et mais parfois, elle rigole et tout, mais pas souvent.
Ouais, nous, c'est pareil. Elle est assez stricte, mais elle utilise aussi des vieux mots, mais vraiment très vieux. Donc, des fois, on comprend vraiment pas beaucoup ce qu'elle dit. C'est assez compliqué de la suivre.
Ouais, enfin, moi, je trouve que quand je suis avec ma maîtresse, je parle un peu plus, enfin, je sais pas, comme les riches, tu vois. Enfin, pas, je sais pas comment dire, mais pas comme les riches, mais un peu plus, voilà, que quand je parle avec mes amis, c'est plus à l'arrache, tout.
Ouais, à ça, oh, ma mère, elle a horreur de ça. Quand je dis enfin ou genre... C'est horrible, la horreur. Genre, dans les cours, qu'on puisse dire ce qu'on veut, mais pas... Mais genre, quand même qu'il y ait quelques règles, parce que sinon, le monde partirait en je ne sais quoi, sans les règles.
Il partirait en je ne sais quoi. Ce qui me frappe, c'est que ces enfants ont tout à fait intégré l'idée du niveau de langage. Si tu parles au président de la République, genre, tu fais gaffe, là, il y a Véron.
Moi, je dirais que c'est plutôt une adaptation au contexte et ils ont tout à fait raison. Et c'est une expérience qu'on fait toutes et tous si on y réfléchit. C'est le fait qu'on ne parle pas de la même manière suivant à qui on s'adresse et suivant le contexte. Personne, qu'il s'agisse d'un enfant ou pas, ne va parler de la même manière là, à la maîtresse ou dans le contexte professionnel. Professionnel, ou avec sa grand-mère, ou avec ses amis, dans un contexte qu'on appelle tendu ou un contexte relâché. Tout le monde s'adapte aux situations. Et s'ils se rendent compte de ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'il faut simplement savoir effectivement quel contexte exige quelle prise de parole.
C'est très précieux ce genre de réflexion sur le langage, ne serait-ce que dans le monde du travail.
Oui, mais c'est social.
Et c'est aussi à ça que sert le prince de Motordu.
Ben, de fait, il apprend aussi un langage de l'école, par exemple, qui n'est pas forcément le même langage que un langage intime, hein, lorsque... Mais ça joue aussi avec la subversion des genres de discours, la lettre d'amour ou le télégramme, par exemple, qui joue aussi avec ce style de discours-là. C'est lorsque la princesse des écoles écrit une lettre à Motordu en lui demandant s'il veut bien se marier avec elle et qu'il répond à un télégramme qui se termine avec amitié stop où il lui dit qu'il accepte de se marier avec elle avec joie.
C'est trop romantique.
Aussi avec elle et avec joie.
Voilà. Donc ça aussi, c'est jouer sur les niveaux de discours, c'est ce que vous dites ?
Oui, ou jouer avec les formes, les types de discours attendus. Dans un télégramme, on n'attend pas forcément une déclaration d'amour et puis finalement on trouve un jeu de mots avec elle et avec joie par exemple.
Le succès de ce livre vous a conduit depuis des années je crois à multiplier les rencontres avec des lecteurs et lectrices, notamment dans les écoles. Vous devez avoir une valise pleine d'anecdotes à raconter, mais si vous deviez en choisir une aujourd'hui, ça donnerait quoi ? Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement ? Pef ?
Une émouvante ?
Allez.
Bon, une émouvante, c'est un type qui était boulanger et il était coureur cycliste, amateur. Un jour, il se fêle le crâne et il plonge dans un coma de 6 mois. On patiente et enfin il sort du coma, mais il ressort aphasique. Donc tout le monde était content de le voir revenir à la vie, mais il ne parlait pas. Et puis un jour, quelqu'un, tout à fait incidemment, est passé près de lui avec Motordu à la main. Et tout d'un coup, il a vu la couverture de Motordu et il a articulé « Motordu ». Et c'était reparti. Quelque chose a bougé dans son cerveau et les vannes se sont ouvertes. Ça, c'est incroyable. J'ai beaucoup de mal quand je raconte cette histoire parce que c'est trop beau pour être vrai.
Ça donne la chair de
Mais je vous conjure de me croire, quoi.
On vous croit,
parce que ça ne s'invente pas, c'est pas possible.
Je pense qu'effectivement, ça montre aussi à quel point le langage, c'est la vie et c'est ce qui nous relie, quel que soit le langage, qu'il soit verbal ou non verbal. Mais voilà, quelqu'un qui parle ou qui se remet à parler, c'est quelqu'un qui est dans la communication, dans le monde, qui est avec les autres. Et c'est aussi pour ça que ça nous touche. Et aussi pour ça que lorsque les enfants commencent à parler, ça nous touche tellement. C'est la vie qui s'étend.
On entendait tout à l'heure un enfant parler de sa mère exaspérée par l'emploi du mot « genre » à tout bout de champ. Mais genre, ça l'énerve beaucoup. Ça vous amuse ou ça vous agace, ça, la Liévéron?
Bah, je me demande s'il n'emploie pas ce mot pour exaspérer sa mère. Hein. Ça sert aussi à ça, hein, les mots. On sait bien à des moments ce qui va un peu agacer les parents. Et c'est aussi pour ça, des fois, qu'on emploie certains mots. Sinon, tout simplement, les mots qui changent souvent dans les jeunes générations. On dit souvent que les jeunes ont beaucoup de nouveaux mots. En réalité, ils inventent certains mots, mais aussi les non-jeunes. Mais ça va être souvent les mots qui vont dire l'affectif, tous les mots pour dire très, beaucoup. Chaque génération en invente des nouveaux vachement. Maintenant, c'est très démodé, alors qu'à un moment, c'était très présent.
Et donc, ce trop à la place de très, ça vous scandalise pas non plus?
C'est un nouvel intensif. Très n'est plus assez intensif, donc il faut dire trop.
Oh,
et
trop.
Il y en aura sans doute un autre après.
Je vous ai invité dans une autre émission il y a quelques temps pour parler des tics de langage et on a rendu hommage aux tics de langage. C'est pas si fréquent, mais après tout, pourquoi pas? On peut crier vive les tics de langage.
C'est surtout intéressant de se demander pourquoi ils sont là. Et c'est quelquefois tout simplement dans la discussion orale, ben, on essaye de remplir les blancs pour que vous ne me coupiez pas la parole. Des fois, ça sert à ça aussi.
Oui, hein. Oui.
Avant qu'on ait notre mot, genre, pas, c'est moi qui parle.
Voilà.
Ça vous est allergique?
J'en dirai pas plus. En fait, et voilà.
Et c'est aussi ce qu'on appelle la communication phatique dans le langage. C'est une des fonctions du langage. C'est maintenir le lien avec l'interlocuteur. C'est s'assurer qu'il soit toujours en train de nous écouter au téléphone. Vous savez, quand quelqu'un vous parle et que vous êtes parce que comme ça, vous dites à l'autre, je suis là, j'écoute.
Je suis toujours là.
On pourrait dire que ça sert à rien, ce hein, que c'est juste du bruit. Ça sert. Parce que si vous êtes au téléphone et que vous dites pas au bout d'un moment, l'autre va te dire, mais t'es là, tu m'écoutes. Donc des fois, ça sert à des choses dont on ne se doute pas.
Quand on dit « en fait », quand on dit « voilà », quand on dit « du coup », on utilise la fonction phatique du langage.
Phatique.
Ça fait de l'effet, là, tout de suite, Pef, non?
Je vais ressortir de ce studio complètement changé.
Non, on n'a pas commenté la plus belle phrase entendue à l'instant. Quand on parle bien, on parle comme les riches, a dit cet enfant. Là, on est dans tout le propos politique autour du langage. On parlait de transgression depuis le début de cette émission. Tordre les mots, c'est le plaisir transgressif. Mais c'est de la politique, le langage, là, Elia Véron?
En tout cas, le langage croise très souvent des questions politiques. Et oui, la question, c'est qui est-ce qui fixe les normes dominantes du langage? Est-ce que c'est les riches? Bon, là, l'expression est un peu rapide, mais c'est intéressant que l'enfant, en tout cas, ait désigné ça comme ça.
Ouais. Je voudrais donner aux parents qui nous écoutent un conseil pour faire que les enfants rangent leur chambre. Moi, je m'en sers de cette petite anecdote du prince de mots tordus. On mange sa chambre. Juste pour le plaisir que les enfants puissent crier après, c'est bon, j'ai tout mangé. En général, ça marche une fois ou deux.
Une fois ou deux.
Maximum, mais c'est déjà ça de prix quand même.
Ouais, oui, bien sûr.
On vous remercie pour ça, PF.
Il faut vous aider pour ça.
Bah oui,
oui,
on
pour
a
ça,
besoin.
Vous pouvez m'en remercier.
On a besoin de votre aide. Peut-être une ultime anecdote. J'ai lu quelque part votre épreuve du bac philo. Une histoire de Saint-Exupéry.
Ah oui, c'est que je suis tombé au bac sur une phrase philosophique que Saint-Exupéry avait écrite pour son livre Citadelle, dont j'ai jamais pu arriver au bout. Quand j'ai vu ça, que j'avais 3 heures pour ça, waouh, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Et à ce moment-là, je me suis dit, s'il a eu cette phrase, c'est qu'il devait... Il a dû noter ça sur un carnet, puis il y repensait après, ou quelque chose comme ça, ça doit être ça. Il devait être en vol. Mais sur quoi il était en vol? Ben sur son Breguet 14 biplan, créé par l'ingénieur Latécoère. Et voyons voir, ce truc avait un moteur Renault de 300 chevaux. Et je suis parti, et j'ai fait la notice technique du Breguet 14, que je connaissais par cœur.
Au bac philo.
Parce que j'étais un fanat d'aviation. Et j'ai rendu ma copie après avoir rendu cette fiche technique. J'ai pas eu mon bac, mais j'ai eu 17 en dissertation. Alors, sur qui suis-je tombé?
Sur un futur lecteur, clairement.
Un gars qui a dit, celui-là, il a évité le piège. Bravo. Ou alors un fanat de Saint-Exupéry qui a dit bravo aussi.
Ce que je retiens de cette histoire, c'est que vous n'avez pas du tout respecté la consigne, Pef.
Non.
Mais vous vous en sortez avec brio.
J'ai sorti un brio.
Chiant, tu m'exaspères quand tu parles et tu me déserts. Près de toi, je suis jamais fière. On finit toujours en guerre. Si je demande à ma mère son avis sur ce calvaire, de tes mots qui me laissent amer, tes promesses tout éphémères. Ta maison rouge. T'attends à mes naissances après. Le train qui coule. T'attends à mes, c'est ce que tu me dis. Ta maison rouge. La chose, la chose.
T'es ma misère, c'est le monde à l'envers. T'es mon enfer avec tes commentaires. Avoue que c'est que pour nous, les autres ont perdu l'espoir. Avoue que tu lâcherais tout pour ma voix.
Ta maison rouge.
T'attends d'amis, mais sans abri. Le toit qui coule. T'attends d'amis, c'est ce que tu me dis.
C'était Calvaire avec Spiltab, une artiste franco-coréenne qui vit à Los Angeles.
Barbatruc.
Alors on l'aura compris, hein, la famille Motordu qui se décline en tout plein de livres différents disponibles chez Gallimard Jeunesse. C'est hautement recommandé par Barbatruc. Vous trouverez toutes les références sur le site internet de France Inter à la page de l'émission. Quoi d'autre au rayon jeunesse de vos librairies? Eh bien c'est Denis Chessou qui répond à cette question. Et je retrouve juste après mes invités, Pef et Laëlia Véron, dans un court instant.
Dorothée Barbage en France Inter. Là tu lis mon petit loup.
Et oui Dorothée, c'est bien l'actualité du livre pour enfants qui va débuter par l'omelette aux myrtilles de Charlotte Lemaire aux éditions de l'Agrume à partir de 4 ans.
Chers voisins, dimanche à midi, vous êtes conviés à partager une petite omelette aux myrtilles.
Vous avez reçu ce genre de mot, vous ? Grandiose ! Et l'ours bleu, oui ! Et il est signé Claudie, sa nouvelle voisine. Alors, il se prépare pour les festivités.
Il se demande comment c'est d'être un invité.
Ah, pas le temps de rêvasser, hein. Il faut prendre le chemin de la maison de Claudie. Et pour ne pas arriver les pattes vides, il cueille quelques fleurs sur son passage.
Oh, merci pour les jonquilles. Je n'avais encore jamais invité d'ours chez moi.
Le cerf est aussi de la partie. D'ailleurs, il a apporté le dessert.
Pendant que Claudie fait visiter la maison aux invités, deux petits roitelets farceurs en profitent pour goûter les myrtilles du jardin et ils mangent tout.
Oh non, zut, il n'y a plus de myrtilles. Heureusement, l'ours connaît un coin où en trouver d'autres.
Vite, il quitte la maison en direction du sous-bois.
Il va falloir grimper pour réussir à récupérer les précieux fruits tout en haut des arbres. Ah oui, dans cette histoire, ça ne pousse pas uniquement que dans les buissons.
Bonjour, murmurent les mûres, les framboises bien mûres et les myrtilles bien sûr. Elles sont immenses, certaines aussi grandes que grandioses.
Alors Claudie essaye d'en cueillir juste ce dont ils ont besoin, mais il leur est difficile de résister à tous les fruits qui apparaissent.
Ils grimpent, grimpent et ne peuvent s'arrêter de cueillir jusqu'à ce qu'ils soient trop lourds et dégringolent tous les deux.
Alors rien de cassé heureusement et finalement, est-ce que tout le monde ne serait pas plus à l'aise pour faire un pique-nique? Allez, on dégage tout et hop là, à table. Alors l'omelette aux myrtilles est un album plein de charme qui raconte un après-midi champêtre entre amis comme un autre.
Ah, quelques détails près, Denis.
Ah bah oui, entre le voisinage avec un ours bleu, la décoration de table à l'effigie des trois invités, le livre ne cesse de disséminer ses sources d'étonnement. Et tout le talent de Charlotte Lemaire est mis à l'œuvre pour raconter une histoire alors qui est parsemée de bizarreries avec une évidence, une simplicité confondante. L'omelette aux myrtilles, aux éditions de l'Agrume, c'est à partir de 4 ans. On le sait, les adaptations de podcasts en livres de jeunesse, déclinaisons nouvelles, ne vont pas toujours de soi. Les Odyssées, signé Laure Grand-Besançon aux éditions Les Arènes pour les 7-10 ans, forment un livre soigné tant par le texte, la maquette et les illustrations. 12 aventures de l'histoire comme le voyage de Marco Polo.
C'est son voisin de cellule, Rusticello de Pise, qui a écrit ces histoires qui devinrent le livre des merveilles.
L'Asie fascine les hommes par le grand empire en train de conquérir le monde, l'empire mongol. Le territoire du petit-fils de Gengis Khan n'a plus de limites, de la Chine aux portes de l'Europe en passant par l'Asie centrale.
En 1271, un bateau emporte Niccolo, son père, Matteo, son oncle, et Marco Polo, 17 ans. Un voyage qui durera 24 ans.
Alors Calamity Jane fait partie des histoires, Toutankhamon, le masque de fer, Martin Luther King. Et il y a l'histoire moins connue de deux femmes pirates dans les Caraïbes. Anne Cormac, irlandaise, au caractère trempé, qui épouse James Bonney, un pirate, lui promettant de grandes aventures, mais il s'avère que...
Tu es un traître, tu dénonces les gens. Elle lui crache au visage et le quitte, car Anne veut devenir une authentique pirate.
Elle rencontre de vrais pirates comme Jack Rackham, et ils construisent leur petite entreprise, se font un nom solide dans la piraterie, attaquant tous ceux qu'ils croisent. Au large de la Jamaïque, ils attaquent un cargo anglais royal. Et ainsi, Anne rencontre Willie Reed.
Willie ? Non, une femme déguisée en homme, Mary. Elles deviennent complices et Jack, jaloux, doit s'effacer devant leur passion.
Et devant tant de richesses accumulées, quand même, le gouverneur des Bahamas en a marre et réussit à s'emparer du navire. Un carnage.
Elles échappent à la mort en prétendant être enceintes.
Avant de se faire passer la corde au cou, elle dit à Rackham.
Rackham, si tu avais combattu vaillamment, tu n'aurais pas à mourir comme un chien.
Audace et liberté, marque de fabrique de ces deux femmes du début du XVIIIe siècle. Alors on trouvera aussi Aliénor d'Aquitaine, comme la mission Apollo 11 ou le monstre du Loch Ness, des chapitres de 5 à 6 pages avec à chaque fois une dose de mystère, de rebondissement, de proximité humoristique, vous savez, du parler-écrit, et une mise en scène qui attrape l'œil et l'oreille des 7-10 ans. Les Odyssées, signé Laure Grand Besançon, les éditions des Arènes, c'est pour les 7-10 ans. Merci à Xavier Pestugia pour sa réalisation. À Lucie Cosmala, Eric Oswald de Nichessou, nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci beaucoup Denis. Hop, on clique sur le site de France Inter à la rubrique « L'as-tu lu mon petit loup ?» pour retrouver les références des ouvrages que vous conseillez ici chaque dimanche. Nous approchons de la fin de Barbatruc. Pef et là, il y a Véron, sont mes invités. J'ai une dernière question à vous poser à tous les deux. Passage obligé dans cette émission, attention, j'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Là, il y a Véron.
Alors moi j'ai grandi dans la Drôme, au milieu des bergers, donc j'ai deux odeurs et vous choisirez laquelle convient le plus à l'émission. Honnêtement, quand je pense à l'odeur de mon enfance, je pense soit à l'odeur du crottin d'âne, qui était des ânes qui étaient près de chez moi, soit à l'odeur des champs de lavande, soit aux deux.
Pef.
C'est au bord de la Grône, qui est un affluent de la Saône, qui est ma rivière d'enfance, que je croise à 250 à l'heure quand je suis dans le TGV, à l'endroit même où je pêchais. Donc ça dure quoi, une seconde et demie.
Et qu'est-ce que ça sent ?
Et, mais non, ça je la vois la Grône. Ah. Mais à chaque fois me revient l'odeur de la pêche à la ligne, l'odeur de la musette pleine de goujons, d'ablettes et de perche-soleil. Et ouvrant la musette, c'est... tous les bonheurs de l'été, quoi. C'est cette odeur forte, animale, hein, bestiale. Il y avait des poissons-chats aussi. Et c'était une odeur du vainqueur. Le vainqueur sur le peuple des poissons, quoi.
Il y a toute la biodiversité dans notre cocktail olfactif de la semaine. Donc, plein de poissons dans votre besace, Pef, un champ de lavande et du crottin d'âne. Merci beaucoup. Ces trois odeurs viennent rejoindre le parfum de l'enfance. On en fait un cocktail à la fin de l'année. Pef, je renvoie tous les auditeurs et toutes les auditrices à notre site internet pour votre bibliographie. Je ne peux pas citer tous vos livres, il y en a beaucoup trop. Peut-être à nouveau simplement celui-ci qui a été publié pour les 40 ans du Prince de Motordu, le trésor des histoires Motordues chez Gallimard Jeunesse. Ça rassemble plein d'histoires différentes, toutes les histoires de la famille Motordu, pour les petits garçons, pour les petits glaçons, pardon, oui, et pour les petites billes. C'est très chaudement recommandé. Je recommande aussi le livre de Laëlia Véron et Marie Candéa à la découverte, Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique. C'est plutôt pour les grandes personnes. Vous
plutôt,
confirmez
plutôt.
Bon. Un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup d'être venus nous voir.
Merci.
Merci Dorothée.
Bonne soirée et à bientôt.